Yemunla, vous écoutez Caro Caraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maëla et bienvenue dans cet épisode anniversaire. Caro Caraman fête ses 5 ans. Même si le podcast est en pause indéfinie, je tenais à marquer le coup parce qu'il s'en est passé des choses depuis 5 ans, donc on va faire le bilan. Si tu me suis depuis le début, merci d'être là et ce sera un voyage de nostalgie. Et si tu viens juste d'arriver, merci d'être là aussi et on va dire que ce sera un voyage de rattrapage. On va le faire dans l'ordre chronologique. 2019, c'est l'année du lancement du podcast Caro Caraman. Donc d'abord en français. En vrai, j'avais enregistré l'épisode 0 en août 2018, mais j'avais peur de le publier. Finalement, pendant les vacances de décembre 2018, je n'arrêtais pas de me dire que je devais enregistrer un nouvel épisode. Mais il m'a fallu encore quelques semaines pour oser le faire et le mettre en ligne. Et donc ensuite, j'ai enregistré les autres épisodes. Après le 6e épisode, mon ordinateur m'a lâché. Et j'étais quand même un peu déçue d'avoir aussi peu d'écoute. Donc je m'étais dit que j'allais arrêter. Et puis finalement, je me suis dit que non, j'étais trop contente de parler de cinéma caribéen, donc j'allais continuer de le faire, mais cette fois-ci, j'allais faire le podcast en anglais. Donc j'ai lancé en août 2019, Caro Caraman, The English Version, et j'ai aussi lancé la plateforme en ligne, carocaraman.com, pour continuer à bloguer, comme je voulais, sur du contenu culturel caribéen. Quand je réécoute le premier épisode de Caro Caraman en français, je suis toujours aussi émue. Je sais, l'audio est de qualité médiocre parce que c'était le micro de mon téléphone portable, je crois. J'ai enregistré une partie de la saison 1 avec mon smartphone et une autre partie avec le micro de l'ordinateur. Et donc ce premier épisode, je parle lentement parce que je voulais bien articuler. Et de toute façon, on entend la différence entre le premier épisode en français et le premier épisode en anglais. Ou même si je parle dans une langue étrangère, je me trouve quand même un peu plus à l'aise. Mais bon, bref, c'était le tout premier, j'étais stressée, mais j'étais tellement heureuse de parler d'un film que j'aimais sincèrement que j'arrive à me pardonner d'avoir une qualité audio aussi... Non mais c'est médiocre, hein, faut le dire. Hein. Le contenu est bien, mais la qualité audio n'était pas au rendez-vous. Et donc ce premier épisode était consacré à Battle Dream Chronicle d'Alain Bidard. Et franchement, Alain Bidard, dès le départ, il a montré son soutien et je l'en remercie à chaque fois. Depuis, il a sorti un second long métrage, toujours un film d'animation, donc qui s'appelle Opal. Et à ce jour, Opal cumule plus de 200 récompenses à travers le monde. Qui dit mieux ? Je vous laisse aller voir combien de récompenses françaises sont dans le lot. En tout cas, ce premier épisode sur un film d'animation martiniquais m'a donné la direction dans la définition de mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française, parce que ben déjà, le film d'animation, ce n'est pas un genre qui est reconnu dans le cinéma français. C'est un peu le parent pauvre, on va dire. Alors que moi, je trouve que c'est un format tellement intéressant et tellement créatif, on ne peut se poser aucune limite avec le film d'animation. Et c'est ce qu'il nous faut, en fait. Et c'est aussi dans le sens où, comme c'était un film martiniquais, donc ça me forçait, moi, à vraiment réfléchir à mon identité guadeloupéenne. Donc, la leçon que je retiens de 2019, c'est que... mon identité a de la valeur, j'ai de la valeur, et je me donne de la valeur parce que personne ne pourra le faire à ma place. On passe à l'année 2020. Donc c'est mon année expérimentation, c'est aussi l'année du Covid. Sur un coup de tête, je me suis lancée dans la création de mon guide sur la représentation de l'esclavage dans la Caraïbe. Donc ça représente 6 épisodes en français. Tout a été écrit, enregistré, monté en moins de 2 mois. Il y a aussi la version en anglais et je suis vraiment contente d'être allée au bout de ce projet, mais je reconnais quand même que il m'a laissé très longtemps un goût amer parce que cette série audio a été peu écoutée. À ce jour, aucun épisode n'a dépassé la barre des 100 écoutes. Mais ça reste le contenu audio qui me donne le plus de fierté et c'est la leçon que je retiens de 2020. Ce n'est pas le nombre d'écoutes qui compte, mais qui écoute. Cette série audio sur la représentation de l'esclavage me donne accès encore aujourd'hui à des espaces universitaires où mon regard sur ces questions est valorisé et cela me permet en retour d'entendre d'autres points de vue et de continuer à nourrir mes propres réflexions. On passe en 2021, c'est l'année de la révélation, c'est l'année où je commence à utiliser mon vrai prénom, Maïla, pour signer mon contenu. C'est l'année où je m'autorise à être ambitieuse pour Caro Caramant. Le podcast est partenaire média de la première édition du Conchal International Film Festival. Je participe au projet Films for Haiti de la réalisatrice Kafi Karim de Trinidad and Tobago. Et c'est aussi l'année où je commence mes recherches sur l'amour. En 2021, je me suis rendu compte à quel point j'étais arrogante de penser savoir ce qu'est l'amour. Et quand je dis amour, je parle vraiment d'amour sous toutes ses formes. L'amour de l'autre, l'amour familial, l'amour romantique, mais surtout l'amour de soi. J'ai fait d'abord le point avec ma vision de l'amour en général, avec mon premier recueil de nouvelles Love Moi, qui est toujours disponible, vous pouvez aller l'acheter si vous voulez me soutenir. Et quand j'ai fini d'écrire, je me suis dit, c'est bon, je maîtrise le sujet, je sais ce que je pense, je connais mes opinions, et l'univers m'a fait redescendre très très vite. Et je me suis dit, d'accord, on va aller voir ce que les autres en pensent. Donc je me suis dit que je vais commencer à rechercher notre vision de l'amour dans la Caraïbe. Et c'est là que je lance mon podcast littérature Tim Tim Bouafik, qui représente deux défis en un parce que je dois interviewer des autrices et en anglais. Et à la base, je ne voulais pas faire d'interview, mais bon, les circonstances ont fait que j'étais motivée par le sujet, donc parler de romance, et je me suis dit, allez, on y va carrément parce qu'on est ambitieuse. Pourquoi je l'ai fait en anglais? Parce que, et je dis ça avec toute la bienveillance du monde, mais les Guadeloupéens, les Martiniquais, on ne sait pas écrire sur l'amour. Sur le sexe, sans aucun problème, hein, même si je suis tombée sur certaines histoires érotiques qui me paraissent très problématiques. Mais dans l'ensemble, l'intimité physique, écrire sur l'intimité physique ne nous pose pas de problème. Et c'est plus mis en avant que l'intimité émotionnelle ou spirituelle. Alors qu'au final, ce que les gens recherchent, enfin ce que tout le monde recherche, c'est d'avoir une intimité émotionnelle, une connexion émotionnelle avec les autres. Donc quand je dis ça, je dis pas que l'intimité physique a moins d'importance ou ne compte pas, je dis juste qu'il faut un équilibre avec l'intimité émotionnelle. Et c'est mon défi lecture que j'ai fait cette année-là, donc mon défi lecture hashtag Condé Challenge, sur Maryse Condé, qui m'a aidé à formuler tout ça. Elle a écrit sur les tourments de l'amour, elle a écrit sur la sensualité du sexe, mais trouvez-moi un roman de Maryse Condé où un personnage vit l'amour de façon apaisée et saine, bon courage, hein, j'attends. Dites-moi quand vous le trouvez et on pourra en discuter. Et donc là, je me suis dit que si même elle n'arrive pas à écrire sur l'amour heureux, qui chez nous peut le faire? Et dans la Caraïbe anglophone, on en est déjà au stade d'écrire sur les sentiments heureux, ou en tout cas de questionner notre rapport à l'amour, notre rapport au bonheur, notre rapport à l'idée de couple, parce que dans la Caraïbe anglophone, il y a déjà une littérature queer. Donc, on en est à des années-lumière, il faut le reconnaître. C'est pour ça que le podcast sert à garder une trace, et je me suis aussi lancée dans l'écriture d'une nouvelle qui s'appelle Virée, et Virée, le titre est un hommage à ma chanson préférée de Gilles Fleurot. La leçon que je retiens de cette année 2021, c'est que j'arrive enfin à organiser la création de mon contenu. Je sais planifier, exécuter, et l'amour, c'est magnifique. On passe en 2022. C'est l'année de la confirmation. Comme j'analyse le marketing culturel depuis 2016, je décide de me lancer dans le podcast de musique hashtag Swim Caribbean avec une série d'interviews, parce que maintenant je suis prête à faire des interviews en français. Et le podcast hashtag Swim Caribbean, c'est mon gros projet cette année-là. C'était intense, j'ai apprécié chaque discussion et j'espère que chaque artiste a apprécié ma façon de là ou de le valoriser. Donc il y a eu Chris, il y a eu Lorenz, il y a eu Arnaud Dolmen, il y a eu Celia Wa, il y a eu Lissi Nice Jean, il y a eu Mano Di Shango, il y a eu Nerka, et évidemment il y a eu la reine Jocelyne Berroir de Cassave. Et franchement c'était une expérience formidable. Et en parallèle je me suis remotivée à faire le podcast Caro Caramant. Cette fois-ci je voulais faire vraiment une saison 3 qui est centrée sur les films de Guadeloupe. Donc je commence à publier, mais entre le podcast cinéma et le podcast musique, ça commence à faire un peu beaucoup. Et sans compter qu'en même temps, je finissais d'écrire Viré. Et ça, c'est une nouvelle, même si elle est très courte, hein, mais j'ai mis un an à l'écrire parce que je voulais y mettre tous les doutes et tous les désirs amoureux que j'observe autour de moi depuis l'adolescence. Et j'espère que les femmes qui liront cette histoire se sentiront validées dans leurs émotions, dans leur envie d'aimer et d'être aimée, peu importe leur parcours de vie. Et d'une façon générale, les retours que j'ai eus par rapport à cette histoire, c'est que les femmes qui l'ont lu se sont vraiment identifiées au personnage de Laïs, le personnage principal. Donc je me dis que j'ai pas trop mal réussi mon coup. Donc c'est une nouvelle qui est publiée en auto-édition. Pareil, vous pouvez aller l'acheter pour me soutenir, ou juste si vous avez envie de lire. C'était franchement une belle aventure. Mais on arrive fin 2022, je suis épuisée, mentalement, psychologiquement, physiquement, et je décide de pratiquer sérieusement l'amour de soi. 2023, c'est mon année de questionnement. Je décide d'avoir une vraie routine sportive. Alors d'ailleurs, merci à mes abonnés Instagram qui m'encourageaient dans chaque défi fitness tout au long de l'année. J'ai aussi repris la danse. Alors certes, il faut être honnête, j'ai perdu toute la grâce de ma jeunesse, mais c'est mon espace où je m'autorise à être bien, même sans être particulièrement douée pour l'activité. Et je pense que c'est ça qui m'a donné la force de terminer la saison 3 de Karukeraman. Cette saison 3, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, parce que je ne voulais pas heurter les sensibilités gratuitement. Et moi, je suis désolée, mais on dit que les femmes sont susceptibles, mais les hommes aussi sont très susceptibles. Après, quand ce sont des artistes, ils le sont encore plus. Et je ne me vois pas dire des choses auxquelles je ne crois pas. Et faire des compliments, juste pour le plaisir de faire des compliments, ça ne m'intéresse pas. Donc cette saison 3 était vraiment exigeante en termes de rigueur intellectuelle, parce que je ne voulais pas qu'on me reproche de faire... Je ne voulais pas qu'on me reproche une approche trop subjective. J'ai vraiment essayé d'être rigoureuse et d'être claire sur ce que j'analysais et pourquoi je choisissais d'analyser cet aspect de leur film ou de leur série. Cette année 2023, j'ai eu aussi beaucoup de questionnements sur le paysage culturel actuel et surtout sur la finalité que les gens recherchent. Au cours de ces 4 dernières années, j'ai été contactée pour faire de la promo par des gens qui, j'en suis sûre, n'ont jamais écouté un seul podcast. Et forcément, je leur ai dit non. J'ai l'impression que Karukeraman est perçu comme un podcast militant, alors que je ne parle que d'amour. Mais franchement, trouver un épisode où je dis « Ah bah ceci, ah bah cela, je suis contre le système », moi, mon seul message, c'est toujours « Aimons-nous les uns les autres, donnons-nous de la valeur et changeons de façon individuelle ce que nous pouvons changer. » Je ne dis rien d'autre. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente des problèmes au niveau structurel, mais Karukeraman n'est pas l'espace où j'en parle. Je vais peut-être plus en parler dans Tim Tim Boafik, parce que, comme j'ai dit, je le fais surtout en anglais, donc avec les anglophones, c'est plus facile d'être ouvert sur ces questions-là. J'en parle dans Hashtag Team Caribbean, parce que c'est aussi un podcast où j'ai des épisodes en solo. Donc là, peut-être que je vais parler des aspects, des problématiques structurelles. Mais sinon, dans Karukeraman, non. Aimons-nous les uns les autres, hein, c'est tout, hein. Au cours de ces 5 ans, j'ai constaté aussi que les gens changeaient de discours sur le marketing culturel, sur le branding culturel. Avant, j'entendais que des « les Antillais ne réussiront jamais, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on ne nous aide pas à faire ceci ». Et maintenant, certes, je l'entends encore, mais j'entends aussi du « de toute façon, on a du talent, on est caribéen ». On vise l'international. Alors, je ne dis pas que c'est l'influence Karukeraman, mais je vous assure que caribéen et international sont des termes que je n'entendais pas de façon positive en 2016. Moi, je sais pourquoi je dis tout ce que je dis, et mon contenu est une partie des explications. Par contre, quand j'entends tous ces beaux discours, mais que derrière, les actions de marketing et de promotion et de branding sont toujours les mêmes qu'avant, je me dis que c'est juste du vide, en fait. Donc, qu'est-ce que les gens veulent accomplir? Je ne sais pas, et ça me perturbe, en fait. En 2023, j'ai lu et entendu des débats sur la différence entre être antillais et être caribéen. Genre, j'ai vu un tweet qui présentait Kassav comme le premier groupe français antillais et caribéen à s'être produit au Stade de France. Non, mais on en est là, quoi. Et si vous ne voyez pas la crise identitaire dans ce tweet, il faut écouter tous mes podcasts. Mais vraiment. Donc ça, ce sont pour moi des débats inutiles qui sont menés et alimentés par ma génération d'intellectuels et celle qui est en train d'arriver. Et moi, je ne comprends pas comment des problématiques bien spécifiques aux Afro-Français soient devenues les problématiques des Guadeloupéens et des Martiniquais. Et je signale au passage que nos problématiques ne sont pas devenues les leurs, puisque je ne les entends pas intervenir dans d'autres espaces pour en parler. Bon, je vais ouvrir une parenthèse que je ne vais certainement pas fermer, mais par exemple, la question de la représentation des femmes noires dans la littérature ou dans la chanson. En littérature, la tendance de ces 10 dernières années, c'est de parler du cheveu crépus. Moi, je suis désolée, notre problématique à nous n'est pas qu'on ne parlait pas des cheveux crépus. Notre problème, c'est qu'on en parlait, mais en critiquant les cheveux crépus. Relisez Maryse Condé, malgré toute la beauté de ses écrits, les cheveux crépus dans sa littérature n'ont toujours été qu'une, et je cite, « tignasse ». Chez les auteurs martiniquais, je n'ai aucun souvenir d'une description de femme noire où je me dis « waouh, cette femme a l'air tellement magnifique ». Donc, c'est une expérience différente de l'afro-français ou de l'afro-française de l'Hexagone qui, dans les années 90 ou 2000, devait lire notre littérature pour voir des personnages noirs dans un contexte français. Maintenant, si on prend le cas de la musique, à quel moment on est passé d'avoir eu des chanteuses reconnues dans toutes les communautés afro depuis les années 90 avec le zouk et le R&B à « heureusement qu'on a Aya Nakamura aujourd'hui pour nous représenter ». Donc on peut débattre de l'invisibilisation des chanteuses de chez nous ou du branding des chanteuses de chez nous qui empêche aux jeunes filles de chez nous de se sentir représentées, mais on va pas débattre qu'on a un manque de représentation dans la musique. Et je sais que ça peut paraître paradoxal venant de moi quand je dis que j'ai grandi sans me sentir représentée, mais quand je dis ça, c'est toujours dans le contexte des films et des séries télé. S'il y a bien un endroit où je me sentais représentée en grandissant, c'était dans la musique, et je trouvais nos chanteuses magnifiques. Donc oui, nos problématiques se croisent, mais elles ne sont pas interchangeables ni identiques, et je ne comprends pas qu'on fasse venir autant d'universitaires afro-français non guadeloupéens, non martiniquais pour discuter de nos problématiques qu'ils n'ont pas vécues et qu'ils ne vont pas défendre ailleurs. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas les inviter, mais ce n'est pas vers eux qu'il faut se tourner pour attendre des réponses sur nos problématiques à nous. Je le dis ici parce que c'est mon espace de parole et parce que franchement ça me saoule depuis 3 ans, mais je ne reviendrai pas sur ce sujet. J'ai dit ce que j'ai dit. Là, en 2024, pour moi, on est clairement à un tournant parce que le cinéma français est en panne et vous savez déjà vers qui il va se tourner. Comme le cinéma français va accueillir quelques-uns de nos cinéastes, cela veut dire qu'au lieu de développer nos histoires pour un public caribéen, on va continuer à vouloir plaire uniquement à une industrie française. La seule chose que je dirais, c'est regardez comment la rétrospective de Zane Palsy a été traitée fin 2023 et continuez de croire que les choses changent enfin. Non, je suis désolée, on n'y est pas encore. En littérature, nos auteurs et autrices médiatisés sont les auteurs et les autrices qui restent dans leur zone de confort et on ne donne de la valeur qu'à ceux et à celles qui sont validés par les maisons d'édition. Les artistes de musique urbaine sont en train de répéter les mêmes erreurs que les zoukeurs et les zoukeuses dans les années 90 et 2000. Donc après, tous ces gens, ils peuvent venir clamer « Oui, je suis antillais, je suis caribéen », mais en attendant, le système les exploite toujours. Bref, j'en parle dans ma série audio « Hashtag Swim Caribbean » sur les mythes autour des artistes antillais. La leçon que je retiens de 2023, c'est que mon intégrité a été testée à plusieurs reprises au cours de ces 5 dernières années, mais j'ai réussi à garder ma ligne éditoriale. Quelqu'un m'a dit une fois que je cherche toujours le chemin le plus compliqué pour obtenir ce que je veux. Mais si le chemin le plus facile me fait perdre mon intégrité, mais je n'en veux pas en fait. Au final, au cours de ces 5 dernières années, j'ai vu les thématiques qui m'intéressent s'installer dans notre espace grand public, et ça me fait tellement, tellement, tellement plaisir. En cinéma, je vous disais que je n'avais pas de souvenir d'avoir vu les films de Christian Lara à la télé. Sur ces 2 dernières années, son cinéma a quand même été célébré avant sa mort. Des jeunes ont pu voir ses films à la télévision. Et pour Alain Bidard, on commence enfin à parler de lui. Pas suffisamment encore vu la hauteur de son talent, mais on commence à parler de lui. En littérature, Maryse Condé est mise à l'honneur pour la saison culturelle 2023-2024 en Guadeloupe. Il y a aussi le centre d'art et de culture qui est squatté actuellement par le collectif d'artistes qui a décidé de se baptiser avec le nom Maryse Condé. Donc c'est bien qu'on puisse la reconnaître maintenant. En musique, on commence à reprendre la main sur le récit autour du zouk. Je dis bien on commence, on n'y est pas encore, hein, mais C'est pas mal. Donc, à défaut de savoir un jour si Karukeraman a une influence dans tout ça, je me dis que Karukeraman a sa place dans cet espace de célébration de nos cultures. Et j'en suis très heureuse. Jusque-là, je voyais Karukeraman comme un projet personnel, comme un témoignage. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit une plateforme de référence sur les cultures caribéennes pour créer un écosystème juste et fonctionnel pour nos industries créatives. Et je sais que je peux paraître prétentieuse ou arrogante, mais j'ai les moyens de ma politique. Personne ne va venir me blaguer ou me faire croire que je ne sais pas de quoi je parle ou que j'ai tort de rêver que ce soit possible. Que sera l'année 2024 ? Je vais m'occuper de ma santé, enfin, je vais continuer à m'occuper de ma santé. Je fais ma série audio sur les mythes autour des artistes antillais tranquillement. Je dois sortir un épisode pour l'abolition de l'esclavage. Je suis encore média partenaire pour le Conchal International Film Festival. Mais je ne compte plus me lancer dans de la création de contenu audio sur une longue durée. Je veux me consacrer de nouveau à l'écriture, mais vraiment, j'ai commencé la publication de Tant Moins. Donc c'est une sorte de suite de Noël Love. Et c'est un projet d'écriture pour l'année. Qu'est-ce que je veux d'autre aussi pour 2024 ? Je veux plein d'abonnés pour ma newsletter. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'assure que les 5 minutes de lecture seront des minutes enrichissantes. En tout cas, ce sont les retours qu'on me fait. Donc pour terminer cet épisode anniversaire, je vais faire un top 3 des remarques que j'ai eues le plus souvent, les rares fois où les gens m'ont parlé directement de Karukeraman. Alors déjà, je tiens à souligner, je n'ai eu aucune remarque négative en 5 ans. Certainement, il y a des gens qui ont dû me critiquer en privé, mais une critique négative à moi directement, non, ça n'est jamais arrivé. Donc, en tout cas, je le redis, je suis ouverte à la discussion, hein, mais il faut venir avec des arguments solides, sinon c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc, en troisième position des remarques sur Karukeraman que j'ai pu avoir, j'ai eu le « tu devrais faire de la vidéo ». Alors, à un moment, j'y ai pensé sérieusement. C'était genre en 2021, tu sais, l'année de l'ambition et tout. J'ai même eu des propositions en ce sens, pour le faire dans un cadre professionnel, semi-professionnel. J'ai fait des tests, mais il n'y a pas eu de suite. Et franchement, je n'ai aucun regret parce que faire de la vidéo demande trop d'investissement et ce n'est pas quelque chose que je ferais dans la gratuité, en fait. Je sais qu'on est dans la culture de l'image, mais j'ai juste la flemme. Et puis parfois, je pense que c'est important de savoir fermer les yeux et d'ouvrir les oreilles pour bien recevoir un message. Et le message que je veux faire passer demande à l'auditeur ou à l'auditrice d'être intentionnel dans ce qu'elle ou ce qu'il décide de consommer, donc il faudra vous contenter de ma voix. Et d'ailleurs, c'est aussi une autre raison pour laquelle je n'ai plus envie de faire de podcast en ce moment. Le paysage a tellement changé en 5 ans. À la base, le but du podcast, c'est d'avoir un fichier audio. Aujourd'hui, les gens se filment en train d'enregistrer et appellent ça un podcast. Mais non, en fait, ça reste toujours une vidéo où tu parles. Donc, bref, moi, je n'ai plus l'impression d'avoir ma place avec ce format, donc je retourne à mon premier amour, l'écriture, et les gens qui sont vraiment intéressés seront au rendez-vous. Ce qui m'amène à la remarque numéro 2. Tu devrais avoir plus de gens qui t'écoutent. Alors, est-ce que j'aimerais que plus de gens m'écoutent ? Oui, évidemment. Si on regarde mes stats en téléchargement ou en nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et tout, par rapport aux autres podcasts antillais, on pourrait croire que je suis un podcast débutant. Comme j'ai dit tout à l'heure, aucun épisode de mon hors-série sur la représentation de l'esclavage n'a dépassé la barre des 100 écoutes, au bout de bientôt 4 ans maintenant, et c'est le cas de beaucoup de mes épisodes en fait. Si on devait cumuler les épisodes de Karukeraman en anglais, Hashtag Swim Caribbean et de Tim Tim Boafik, à moi seul j'ai produit plus de 150 épisodes. Sans compter ce que je fais uniquement à l'écrit, donc si on n'applique que le critère de productivité, je suis forcément dans le top 2 des plateformes les plus productives, et je ne suis pas le numéro 2. Donc maintenant, est-ce que j'ai essayé de me promouvoir pour avoir plus de gens qui m'écoutent ? En toute transparence, oui. J'ai tenté tous les leviers que j'ai vu fonctionner pour les autres, et ça n'a rien donné. À titre d'exemple, il y a quand même une émission télé qui m'a déjà contacté 3 fois en 5 ans. J'ai un interlocuteur différent à chaque fois, donc je suppose que l'équipe de rédaction est renouvelée. Et d'une façon ou d'une autre, Karukeraman réapparaît quand il cherche des invités, mais à chaque fois, je fais le pré-entretien, et après, on ne me recontacte pas. J'ai aussi eu la démarche de contacter des émissions littéraires et musicales en présentant mon travail. Pareil, ça n'a pas abouti. Donc, j'aurais pu faire des collaborations aussi. Mais trouver des personnes avec une ligne éditoriale qui correspond à la mienne, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mon épisode avec Stargy pour le Stargy Show, c'est vraiment la seule fois pour le moment où vous pouvez me voir sur la plateforme d'un compatriote de chez moi. D'ailleurs, je le remercie à nouveau parce que jusqu'à la fin, j'ai cru que ça ne se ferait pas comme avec les autres. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une question d'avoir plus de gens qui m'écoutent. J'ai déjà des gens qui m'écoutent et j'en suis extrêmement reconnaissante. Maintenant, je reste réaliste. Le véritable défi pour moi, c'est que la communauté stable que j'ai s'engage publiquement, que les gens osent exprimer leurs idées quand je pose une question ou alors qu'ils mettent au moins un like sur un épisode qui leur a plu. Et donc on va dire que c'est ma prochaine étape de développement pour les 5 années à venir. J'ai connu beaucoup de moments de découragement et je remercie chaque personne qui a pris le temps de m'envoyer un mail pour me dire que la newsletter leur fait du bien, que mon enthousiasme leur donne de l'énergie. Ces gens ne sont pas nombreux et il n'y a que moi qui les vois. Mais c'est vraiment ça qui m'a aidé à relancer ma motivation à chaque fois où je me disais « bon, c'est bon, personne m'écoute, ça n'intéresse personne, à quoi ça sert, j'arrête ». Ce qui nous amène à la remarque que j'ai entendue le plus souvent, c'est « merci ». Cela se passe de commentaires. C'est moi qui vous remercie d'avoir écouté mes monologues pendant ces 5 ans. Chaque message m'a vraiment touchée. Je les relis encore aujourd'hui hein, quand les doutes refont leur apparition. Mais mon pourquoi je fais tout ça n'a pas changé, donc je sais que je continuerai quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que vous vous abonnerez aussi à ma newsletter. Si ce n'est pas déjà fait, j'insiste, hein, mais franchement, abonnez-vous. Elle est assez courte, mais je la trouve plus efficace que les podcasts parce que je décortique vraiment une situation d'actualité pour expliquer le marketing et le branding culturel du 21e siècle. Parfois, je donne mon avis, ce que je ne fais pas vraiment en podcast. La newsletter, c'est vraiment une invitation à réfléchir sur soi, sur nous, à échanger. C'est une invitation à rêver pour une meilleure société, à rêver à une meilleure vie pour nous. Donc, au plaisir de vous y voir ou de vous y revoir. Merci pour ces 5 ans de Karukeraman. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers Karukeraman, c'est aussi un podcast littérature. Tim Tim, Boafik, un podcast musique, hashtag Stream Caribbean. Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur karukeraman.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse karukeraman@gmail.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, @karukeraman. Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens, Bered.